Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades, ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Avant de lire le texte d'introduction, j'ai un texte qui va peut-être revenir tout à l'heure. Je vous le lis, c'est l'apôtre Paul qui dit « Être trouvé en lui, lui c'est en Christ, être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. » Amen. Voilà, deux justices. Nous allons, s'il vous plaît, cet après-midi, dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons nous y arrêter ainsi, on ne va pas rester là sur le texte d'introduction, il va nous servir d'introduction. Nous verrons ensuite donc notre sujet qui a été annoncé cet après-midi, c'est-à-dire sur « Y a-t-il une vie dans l'au-delà ?» Et ce matin, je vous ai dit, à vous qui étiez là, que cet après-midi, notre sujet s'intitulerait « Irons-nous tous au paradis ?» Qu'est-ce que vous répondez ?« Irons-nous tous au paradis ?» Voilà, j'ai lancé le sujet, et c'est vrai qu'il est un peu provocateur, hein, mais c'est fait exprès. Quand on donne un titre, on veut qu'il suscite de l'intérêt. Alors, Apocalypse, vous ai-je dit, on va lire au chapitre 7, Apocalypse 7, je le cherche en même temps que vous, le verset 9e. Voilà, c'est l'apôtre Jean, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ce texte, c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, l'apôtre Saint Jean, et il a vu des choses, il a vu des événements futurs, beaucoup d'événements futurs. Et il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Vous montrez à l'avance les choses telles qu'elles vont se produire plus tard. Nous, on est obligé d'attendre que l'événement se produise. Hein? On peut, avec notre imagination, en la faisant travailler un petit peu, voire même aujourd'hui avec des images de synthèse, essayer d'imaginer certains trucs. Hein? Vous avez remarqué, par exemple, on vous montre aujourd'hui ce que sera un pont qui va être construit, avec des images, on fabrique des images. Alors vous dites, ah ben oui, ça va bien donner. Ou alors au contraire, on va dire, ben tiens, ça fait drôle dans le paysage. Vous voyez, grâce à cette image, on voit déjà ce que ça va donner. Ça c'est bien sûr les moyens modernes. Mais notre Dieu, il y a longtemps, il a transporté l'apôtre Jean dans le ciel et il lui a montré des choses ineffables. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ineffable, ça veut dire qu'on ne peut pas le raconter. Alors il a essayé, avec ses mots à lui, de nous dire ce qu'il a eu. Nous lisons au chapitre 7, verset 9e. Il nous dit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône. » Je répète, ils se tenaient devant le trône. Donc, ils sont dans le ciel. « Et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Et l'un des vieillards, ou traduisez ancien si vous préférez, prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais !» Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, Et écoutez bien ce texte. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Ça, c'est le paradis. Amen. C'est le paradis. Gloire à Dieu. Mais la question, c'est, irons-nous tous au paradis? Ici, il est question d'une grande foule. Hein? Ils ne pouvaient pas la compter, tellement il y en avait. On aura peut-être essayé. Ça vous est déjà arrivé de vous trouver quelque part, mais de vous sentir comme un peu étranger à l'ambiance, mal à l'aise, je dirais même, au point que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Les gens parlent, discutent, mais vous avez l'air vraiment de ne pas comprendre ce qu'ils disent. C'est ça. Vous n'arrivez pas à entrer dans leur conversation parce que vous ne savez pas de quoi ils sont, quel est le sujet qu'ils sont en train de traiter, un petit peu comme si vous preniez un train en marche. Vous arrivez là et vous ne savez pas très bien où vous en êtes. Qui vient à la réunion pour la première fois? Vous êtes habitués, certains d'entre vous, voire même certains, ça fait des dizaines d'années que vous venez aux réunions. Et vous êtes tellement habitués, vous avez déjà votre chaise. Hein, habitué comme on est, hein, on s'assoit toujours au même endroit. C'est pas vrai? Oh, à part certains qui changent quand même de temps en temps. Mais c'est vrai, on a nos habitudes. Regardez-nous aussi, on s'assoit toujours au même endroit, hein, du moins l'après-midi. Mais quelqu'un qui vient pour la première fois, il a peut-être assisté à des cultes ailleurs, à des messes, je dirais, une autre religion. Et peut-être qu'en venant ici, il s'attendait à une certaine ambiance. Je ne sais pas, voir même l'officiant habillé d'une certaine façon, peut-être une longue robe, quelque chose sur la tête. Et c'est le choc, évidemment, quand c'est la première fois. Alors on est là, on dit, mais c'est bizarre, comment ils font, hein? Ça c'est la première fois, la deuxième, c'est plus bizarre. Hein? Ça c'est la première fois. Quel genre de vie avez-vous? Je veux dire, quand on dit, irons-nous tous au paradis? Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous alliez au paradis? Quel genre de vie menez-vous déjà maintenant? Parce que si votre tendance c'est la moquerie, je ne sais pas trop quoi, est-ce que vous seriez dans la bonne ambiance au paradis? Est-ce que vous aimez la prière? Est-ce que vous aimez la Bible? Est-ce que vous aimez le chant des cantiques? Sinon, on se sent là mal à l'aise en disant, bon, pourvu que ça se finisse, parce que moi cette ambiance ça ne me plaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je me souviens, je vais bientôt avoir 60 ans, mais il y a des années de cela, on chantait un chant, pas un cantique, ça n'a rien à voir de religieux, mais c'était, je ne sais plus si c'est Gloria Lasso ou quoi, vous savez, ces vieilles chanteuses autrefois, là, hein, qui ne sont plus là. Et elle chantait, elle disait, « Oh maman, que je me sens étrangère ici, étrangère au paradis. » Vous ne vous rappelez pas? Les vieux, là, je ne voulais pas dire les vieux, les anciens. Parce qu'il n'y a pas de vieux au milieu de nous, hein. Où il y a les vieux? Il n'y a pas de vieux ici. Vous ne vous rappelez pas cette chanson? Je me sens étrangère ici, étrangère au paradis. C'est bizarre ça, hein? Elle n'avait pas l'air de se sentir à l'aise. Parce qu'elle cherchait autre chose que ce que l'on trouve au paradis. Et donc, si cette ambiance des choses de Dieu, comme on vient de le voir dans cette révélation que l'apôtre Jean a eue du paradis. Si cette ambiance ne vous plaît pas, qu'allez-vous faire au ciel? Parce que le ciel, c'est pour l'éternité. Si vous n'aimez pas, par exemple, venir chanter des cantiques, mais qu'allez-vous faire au ciel? Au ciel, vous ne pourrez plus me quitter, c'est fini, ce sera pour l'éternité. Vous allez chanter des cantiques pour l'éternité, et vous n'aimez pas ça? Et ce sera l'enfer pour vous, ce ne sera pas le paradis. Je vais un peu loin peut-être là. Vous comprenez ce que je veux dire? Irons-nous tous au paradis? Un jour, un pasteur qui visitait un monsieur, c'était pas quelqu'un qui était converti, son épouse, oui. Bon, il avait été comme ça, rendre une visite à ce foyer. Et bon, il s'est mis à parler avec ce monsieur. Et ce monsieur, machinalement, dans la conversation, lui dit, moi je crois que j'irai au ciel. Ah bon? Et pourquoi vous croyez que vous irez au ciel, lui dit le pasteur. Il dit, ben parce que je suis gentil avec ma femme, j'aime mes enfants, je les élève dans l'honnêteté, mais je ne vois pas pourquoi je n'irai pas au ciel. Voyez. Donc cet homme s'appuyait sur quoi pour aller au ciel? Il s'appuyait sur ses mérites. Il avait essayé d'être gentil, il avait essayé d'être agréable avec sa femme. Tant mieux, hein, évidemment. Il y a assez de foyers où il y a des problèmes. Hein. Mais le pasteur lui a dit, vous pensez donc aller au ciel? Il dit, oui, oui. Et il lui dit, et à votre avis, qu'est-ce qu'on fait au ciel? Alors le monsieur, il a réfléchi, il ne connaissait pas la Bible, bien sûr. Alors il dit, je pense qu'on chante beaucoup. Ah, vous pensez qu'on chante beaucoup. Alors le pasteur, pour lui répondre, lui a lu un passage de l'Apocalypse, où il est dit, je vous le lis, mais là c'est au chapitre 5, nous on a lu au chapitre 7, mais là c'est au chapitre 5, verset 9, où il est écrit, et il chantait un cantique nouveau. Imaginez ça, quelqu'un qui pensait qu'il allait entrer au ciel grâce à ses mérites. Il chantait dans le ciel un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Il est parlé de Jésus, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et toute nation. Et ensuite il est dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et un peu plus loin, ces gens-là disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on dit au ciel? L'agneau, l'agneau, l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Pas n'importe quel agneau. L'agneau qui a été sacrifié, immolé pour nos péchés, pour racheter des hommes de toutes les nations. Gloire à Dieu, vous voyez que Dieu n'a pas de frontières et Dieu n'a pas de couleurs. De toute tribu, toute race, il y aura de tout dans le ciel. Alors le pasteur dit à ce monsieur, il dit au ciel, on glorifie l'agneau et on glorifie son sang qui a racheté les âmes. Et comme on vient de le lire, vous avez remarqué, ceux qui sont devant le trône, ils sont là. Pourquoi? Eh bien, on lui a dit à l'apôtre Jean, c'est parce qu'ils ont lavé leur robe. Lavage spirituel. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et il est dit, c'est pour ça qu'ils sont devant le trône. C'est par le sang de l'agneau qu'il les a lavés. Alors il dit à ce monsieur, il dit à votre avis, comment pensez-vous être sauvé? Parce que dans le ciel, c'est grâce à l'agneau. Vous voyez que tout à coup, on peut tomber de haut. Alors est-ce que tout le monde ira au ciel? Exprès de donner un titre provocateur. Est-ce qu'en fin de compte, on ira tous au paradis? Ceux qui pensent qu'on ira tous au paradis, c'est une doctrine à laquelle certains croient, et les théologiens l'appellent l'universalisme. Vous pouvez retenir ce mot si vous avez une bonne mémoire, sinon ça fait rien. L'universalisme, ça veut dire tout le monde, finalement, sera sauvé. Ah, ça c'est ce que certains croient. Mais est-ce que la Bible enseigne l'universalisme? Par exemple, quel est l'enseignement de Jésus sur ce sujet? Je vous lis Matthieu chapitre 7 verset 13, et j'aime préciser que c'est Jésus qui parle ici, et il a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc, selon Jésus, il y a le bon chemin et il y a le mauvais chemin pour l'éternité, les amis. Un chemin, nous dit-il, mène à la perdition, et l'autre à la vie éternelle. Celui de la perdition, nous dit-il, est large et spacieux. Autrement dit, il semble plaisant, agréable, accommodant. Mais son issue, c'est la perdition. En contraste avec ce chemin facile, il y a la porte étroite. une seule entrée. Et elle introduit un chemin resserré. Et c'est sur ce chemin qu'on va suivre Jésus, le chemin de la vie éternelle. Comme il le dira dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin de la bénédiction, selon l'évangile de Jésus. Ce que Jésus enseigne, donc, dans ce texte, c'est un avertissement concernant un danger. Il est en train de nous dire « Tous les chemins ne mènent pas au ciel. » La culture populaire, elle croit qu'en fin de compte, tous les chemins mènent au ciel. La recherche spirituelle, qui est un peu ce que proposent toutes les religions, la recherche spirituelle est souvent décrite comme une montagne. La recherche spirituelle est une montagne. Et le ciel serait le sommet de la montagne. Certains vont prendre un chemin par ici, mais c'est toujours vers le sommet qu'ils vont, le ciel. D'autres vont prendre un chemin par là, mais c'est toujours visant le sommet, c'est-à-dire le ciel. Et alors on vous dit ceci, qu'importe quel chemin vous empruntez pour arriver au sommet, chaque religion a le sien, a son chemin. Ça veut dire, qu'importe ce que vous croyez, finalement tout le monde y arrivera. C'est une montagne. Alors si c'est vrai, si cette croyance est vraie, ça signifie que toutes les religions, sans distinction, finiront au ciel. C'est bien ça, profonde réflexion. Mais, je ne sais pas si vous le savez, il y a des religions qu'on appelle satanistes, qui marchent avec le diable, avec Satan. C'est-à-dire, ce sont des gens qui croient que Satan est dans le vrai et c'est Dieu qui est dans l'erreur. Alors, ils enseignent à leurs adeptes qu'il faut combattre Dieu, que Dieu n'est pas à déposséder Satan, qu'il n'est pas dans son droit, que Satan a des droits. Enfin, je ne veux pas vous sortir la doctrine sataniste, mais c'est pour vous dire, si vous croyez que toutes les religions vont au ciel, alors je vous en propose certaines. Vous en avez qui proposent les sacrifices humains. On n'en entend pas souvent parler, mais de temps en temps, ça ressurgit des religions qui proposent des sacrifices humains. Vous avez des sectes qui poussent leurs adeptes au suicide. Là, je ne vous apprends rien. Nous avons notre propre lot en France, au Vercors, etc., des gens qui se sont suicidés parce que dans leur enseignement, eh bien, on leur avait proposé cette voie-là, sans aller jusqu'à ce qui s'est passé en Amérique avec ces milliers de gens qui avaient avalé un poison en suivant leur gourou, etc., etc. Et ils étaient tous morts, les enfants y compris, etc. C'est quelque chose d'atroce. Mais je suis en train de vous dire, vous croyez que toutes les religions mènent au ciel. Il faut faire très attention de ne pas balancer des choses comme ça, parce que si vous rentrez dans les détails, alors vous vous rendrez compte qu'il y a quand même des choses qui ne tournent pas rond là-dedans. Hein. S'il n'y a pas de distinction entre la vérité et l'erreur, en matière de religion, alors il faut inclure toutes les religions, même certaines dont les pratiques sont repoussantes et immorales. Je vous signale que dans certaines religions, il y a même la pédophilie, etc. Ça vous réveille un petit peu? Faire très très attention quand on dit des choses comme ça. Alors, l'universalisme, c'est ça. Eh bien, il a un autre problème, l'universalisme. C'est que s'il est vrai que tout le monde ira finalement au ciel, eh bien Dieu devra en faire entrer certains par force, c'est-à-dire malgré eux. Parce que tout le monde ne veut pas aller au ciel, contrairement à ce que vous pensez. Tout le monde veut aller au ciel? Non. Vous avez des athées qui se moquent de vous, qui vous disent « mais ça n'existe pas, vous êtes des fous, pourquoi vous mettez ces idées-là dans la tête des gens ?» Il faudrait mieux d'aller apporter du pain aux pauvres par là, n'est-ce pas, dans les pays qui en ont besoin. Voilà ce qu'on nous dit des fois. Et vous mettez des idées dans la tête des gens et vous leur pompez les sous. En fait, je vous ai pompé des sous. Au contraire, moi j'en donne. J'ai encore donné mon offrande ce matin, j'avais oublié, tiens, elle a donné. Oui, mes chers amis, certains ne veulent pas y aller. Mais alors, puisque tout le monde ira, Dieu devra les faire entrer par force. Tu ne veux pas y aller, tu iras quand même.
Et qu'est-ce qu'ils vont faire au ciel, ces gens-là?
Or, Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir. Il faudra donc que Dieu outrepasse cette liberté qu'il a toujours respectée, si c'est vrai ce que nous sommes en train de dire. Et puis que deviennent les meurtriers, les bandits, les tueurs en série, que deviennent les pédophiles terroristes, avec les centaines de morts sur les mains.
Le ciel ne serait plus le ciel. On commence à y voir un peu clair.
Irons-nous tous au paradis? L'enseignement de Jésus est des plus clairs. Nous l'avons, je vous ai cité juste un court extrait, mais on voit que Jésus nous met en garde, nous disant que le chemin large ne mène pas au ciel. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il a dit, le chemin large mène à la perdition. Vous dites que Jésus est amour, que Jésus est bon, que Jésus c'est quelqu'un, tout le monde l'aime parce qu'il était gentil. Mais Jésus a dit que certains empruntent le chemin large qui mène à la perdition. Donc il ne mène pas au ciel, mes chers amis. Autrement dit, pour répondre à la question, est-ce que tout le monde ira au ciel? Jésus répond, non, tout le monde n'ira pas au ciel. On peut essayer de plaire aux gens. Et de dire, mais non, n'aie pas peur, tu es gentil comme tout. C'est pas ça qui fait rentrer les gens au ciel, mes chers amis. Alors, sous quelles conditions on entre au ciel? Ça, c'est important de le savoir. Parce que si tout le monde ne va pas au ciel selon le Seigneur lui-même, alors quelles sont les conditions? Si l'entrée au ciel n'est pas automatique, d'après l'universalisme, c'est automatique. Quelles sont les conditions? Sur quoi va-t-on s'appuyer pour décider de votre entrée? Tiens, toi tu rentres pas selon la tête que tu as. Non, heureusement, non. Est-ce qu'il existe un comité qui va décider et qui va voter pour ou contre vous? Hein? Un comité, mettons un exemple, un comité de 10 personnes, il y en a 9 qui votent pour vous et 1 qui vote contre vous. Est-ce que vous rentrez au ciel ou pas? Et s'il y en a 5 qui votent pour vous et 5 contre vous, vous rentrez au ciel ou pas? Est-ce que c'est comme ça qu'on rentre au ciel? Je dis ça comme ça pour introduire le sujet. Pour certains, la première condition, ce sont nos mérites. Ils essayent de mériter le plus possible. Comme je vous l'ai déjà raconté, cet homme qui dit, j'ai toujours été fidèle dans ma religion, j'ai toujours donné, j'ai soutenu les pauvres, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'étais bon avec ma femme, avec mes enfants, je les ai éduqués dans l'honnêteté, etc. D'ailleurs, qui vous dit que c'est dans l'honnêteté qu'il faut les éduquer? Où vous avez lu ça? C'est dans l'évangile? Ah mais si c'est dans l'évangile, l'évangile vous dit que c'est pas comme ça qu'on est sauvé. Vous voyez donc qu'on ne peut pas accepter une partie de l'évangile et pas l'autre. Mais revenons à notre sujet. Certains pensent donc que c'est grâce à nos mérites. Vous avez par exemple le bouddhisme. Le bouddhisme, il a ses 8 étapes et finalement, pour arriver vers où? Au nirvana. 8 étapes. L'islam a ses 4 piliers. Mettez en pratique ces 4 piliers et on verra. Alors, je dis bien on verra, parce que vous ne savez même pas. Si encore vous irez. L'hindouisme, par exemple, lui, on l'a vu dernièrement, a son cycle de réincarnation et puis son karma. Et donc, chaque grande religion présente sa méthode. Mais sa méthode, finalement, elle se résume à ceci, il faut y arriver par soi-même. Voilà, il faut que tu arrives. Comme si, comme ça, on ajoute à chaque fois une chose... Hein, étape par étape, autrement dit, il faut mériter son au-delà. Mais quand vous allez à la Bible, vous découvrez que vous n'y arriverez jamais. Et quand on dit la religion chrétienne, c'est une religion parmi toutes les autres. Je vous fais remarquer que la parole de Dieu, le christianisme, enseigne des choses totalement, je dirais même, contraires à ce qu'on enseigne dans les autres religions. La Bible, quand vous la lisez, vous avez des chocs. Ésaïe 64, verset 5. Si vous pouviez retenir ce texte par cœur, ce serait bien. Ésaïe 64, 5 dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. On est tous des impurs et notre justice est comme un vêtement souillé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons à offrir pour nous présenter au ciel est totalement insuffisant, inadéquat, puisqu'on est tous des impurs et notre justice est un vêtement souillé. Je répète, c'est notre justice, ce ne sont pas nos mauvaises œuvres, ce sont les bonnes. Parce que la justice, c'est ce qui est bon, c'est les bons actes, les bonnes œuvres. Eh bien, la Bible dit, toute notre justice est un vêtement souillé. Alors, vous vous présentez devant la gloire de Dieu avec votre justice, mais votre justice est un vêtement souillé. Romains chapitre 33, c'est l'apôtre Paul, grand théologien du Nouveau Testament, de l'Évangile, nous dit ceci, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est le résultat, tous ont péché, résultat, privés de la gloire de Dieu. Alors, puisque nous avons une justice, notre justice, ce sont nos œuvres, nos mérites, enveloppez-vous de votre justice. Et je rappelle que la Bible dit que c'est comme un vêtement souillé. Vous vous enveloppez de votre justice et présentez-vous devant Dieu. Comment vous êtes? C'est insuffisant. Ésaïe chapitre 53, par contre, nous dit, en parlant de Jésus, il a été blessé pour nos péchés. C'est lui qui est blessé pour nous. Nos péchés. Nous avons péché. Il a été brisé pour nos iniquités. Je saute quelques phrases, quelques mots. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Nos iniquités, Dieu les a fait retomber sur Jésus. Et un peu plus loin, il est dit, il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Tiens, alors nous on a une justice, mais c'est inadéquate, impropre, on se présente devant Dieu, on est repoussé parce que ça n'atteint pas à la perfection de Dieu. Avons-nous saisi que pour entrer au ciel, il faut la perfection de Dieu? Parce que c'est avec Dieu que vous allez vivre, pas avec des pauvres gens comme vous, comme ici-bas, parce qu'entre nous on s'entend bien, hein? Du moins j'espère. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est, des pécheurs, hein, et on croit au pardon, bien sûr, mais devant Dieu. Ce n'est pas de votre perfection qu'il s'agit, c'est celle de Dieu. Il s'agit de l'éternité, de la vie éternelle. Alors, nous ne pouvons pas par nous-mêmes entrer au ciel à cause de nos péchés, nous l'avons démontré, mais Jésus va recevoir la punition pour nous sauver. C'est ce que dit Ésaïe 53, il a pris nos péchés, il s'est chargé de nos iniquités, il a reçu sur lui les coups que nous devions recevoir. Donc il y a quelqu'un qui s'est substitué à nous. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas entrer au paradis. On ne peut pas, notre justice, elle est souillée, même les choses les meilleures. D'ailleurs, il y a un texte d'Ésaïe aussi qui dit que le meilleur d'entre eux, vous connaissez la suite? Le meilleur d'entre eux est un buisson d'épines. Ouh, ça c'est pas... C'est terrible ce que dit la Bible, hein? Mais c'est Dieu qui parle, mes chers amis. Voilà comment Dieu nous voit, hein? Vous dites, oh, moi je suis le plus gentil de tous, hein? Je l'espère, hein? Mais pour Dieu, voyez-vous, le plus gentil de tous. Donc, Ésaïe nous présente quelqu'un qui va prendre notre place sous le jugement. Puisque nous étions des pécheurs, perdus, et nous méritions donc, non pas l'entrée au ciel, mais la condamnation. Eh bien, il va prendre sur lui nos péchés. Il se charge de nos iniquités. Vous pouvez vous présenter devant Dieu de deux façons. Revêtu de votre propre justice, on vient de le voir. Ou la deuxième façon, revêtu de la justice de Christ. C'est ce que j'ai tenu à vous lire dans ce texte de l'apôtre Paul quand il disait être trouvé en Christ, non avec ma justice. Pas revêtu de ma justice, dit-il, mais de la justice qui vient de Jésus, par la foi. Donc il y a deux justices, il y a la vôtre ou il y a celle de Jésus, pas les deux. Il nous faut faire le choix. Et on découvre donc que l'entrée au ciel, c'est un cadeau gratuit offert par Dieu. Cadeau gratuit. C'est un pléonasme, excusez-moi, mais la Bible le dit. Alors j'ose l'employer moi aussi, hein, même si ce n'est pas très français, hein. Un cadeau gratuit de Dieu. Le ciel, tu te rends compte, Tu penses que tu vas le mériter parce que tu vas essayer d'être gentil, tu vas essayer de donner aux pauvres. Ce ne sont que des bonnes choses, évidemment. Hein. Mais je veux dire, ce n'est pas ça qui vous donnera le droit d'entrer au ciel. C'est Christ qui a payé le prix. Et maintenant, Dieu vous dit, il y a quelqu'un qui a reçu ton châtiment pour que tu puisses être sauvé. Si tu l'acceptes, si tu le crois, eh bien, grâce à lui, tu es justifié. Est-ce que tu veux l'accepter? Est-ce que tu veux le croire? Et il attend votre réponse. Dieu ne peut pas vous forcer. Dieu vous a donné le libre arbitre, la capacité de choisir. Dans Romains chapitre 6, verset 23, l'apôtre Paul, je répète, grand théologien du christianisme, dira « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, pour ça je vous ai dit, le pléonasme il existe dans la Bible, le don gratuit ou le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Si vous voulez recevoir selon vos mérites, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais vous remarquerez que quelqu'un a payé pour que Dieu puisse vous dire « Oui, mais il y a quelque chose de gratuit, si tu veux l'accepter. » C'est difficile pour nous qui sommes orgueilleux et qui voulons absolument avoir mérité, pouvoir entrer au ciel en disant « Moi, c'est parce que j'ai donné tant. Moi, c'est parce que j'ai fait tant. Et toi ? Oh, mais moi, j'ai fait plus que toi. » Et ça n'existera pas au ciel. Vous comprenez ? Au ciel, personne ne sera là en train de dire « Oui, mais moi, je suis là parce que j'ai fait plus que toi. Oh, qu'est-ce que t'as fait, toi ? Mais moi, j'ai fait... » Non, c'est pas ça. Vous savez que le mot « évangile » signifie « bonne nouvelle ». Eh bien, ce que nous sommes en train de dire là, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus a dit « Allez par le monde entier et annoncez la bonne nouvelle. » L'entrée au ciel, c'est un cadeau gratuit, offert par Dieu. Mais je ne le mérite pas, j'ai pas assez fait, n'est-ce pas, pour mériter. Mais non, Dieu le sait très bien. Dieu le sait très bien. Tu ne peux pas, personne ne peut. Personne, est-ce que vous vous rendez compte que personne ne rentrera au ciel par ses propres mérites? Il n'existe personne. Rappelez-vous dans l'Apocalypse, ils sont devant le trône de Dieu parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, c'est-à-dire le sacrifice qu'il a offert pour nous à la croix du calvaire. Alors je termine, le ciel est-il pour tous? C'est pas pareil. Attention, je ne suis pas en train de dire, est-ce que nous irons tous au paradis? Mais je dis, est-ce que le ciel est pour tous? Ben, quand Dieu a créé le ciel, ce qu'on appelle le paradis habituellement, je crois qu'il n'avait certainement pas l'intention d'en exclure quiconque. Notre Dieu, son idée, c'était un paradis pour les hommes, hein, pour nous tous, c'est vrai. Pourtant, nous avons vu que tous les chemins ne mènent pas au ciel. Donc, c'est vrai que Dieu offre peut-être le ciel à tout le monde, mais est-ce que tout le monde l'acceptera? Est-ce que tout le monde dira « Oui, mon Dieu, je viens ». Et c'est là qu'est la question. L'entrée au ciel est un don gratuit par la foi en Jésus. Le problème, c'est que les gens qui avaient mis leur confiance dans leur propre mérite, dans leurs efforts, entendent tout à coup la Bible leur dire un autre message. La Bible vient et nous bouscule. Et elle dit, c'est bien d'essayer de faire le bien, parce que Dieu préfère qu'on fasse le bien. Mais si on pense que grâce à ça, le ciel va nous être ouvert, alors là, la Bible dit, arrête, je vais te dire le contraire. Car la parole de Dieu nous dit que sans le sacrifice de Jésus, personne n'arrivera au ciel. Ils sont devant le trône de Dieu parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et c'est l'agneau qui va les conduire et qui va essuyer toutes larmes. Ça, c'est le paradis, ça. Hein. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance. Vous ne vous lèverez pas le matin avec des rhumatismes, avec des douleurs de tout genre. Ce sera terminé. Alléluia. Vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Mais c'est vrai que c'est un réveil parfois douloureux pour quelqu'un de sincère. Vous savez, il y a des gens qui vivent n'importe comment, ils n'ont même pas réfléchi s'ils sont religieux ou pas. Tu crois en Dieu? Pff, oh, je pense qu'il y a quelque chose. Ils ne vont pas plus loin, vous voyez? Ils ne vont pas plus loin. Ils vont de temps en temps à un office religieux, à un enterrement en particulier, parce que c'est un ami, alors il faut y aller. un mariage peut-être, etc., etc. Oui. C'est le genre de religion que beaucoup ont ici-bas. Et ils essayent bien sûr de ne pas être trop méchants, pas trop mentir, mentir un petit peu, mais pas trop. Oh, je mens, mais après tout, tout le monde le fait. Oui, on pense qu'on va y échapper comme ça. Mais mon ami, c'est... est-ce que tu rentreras au ciel, oui ou non? Je pense que j'ai fait le bien alors, hein, comme disait ce monsieur tout à l'heure, à ce pasteur, hein. Moi, je pense que j'irai au ciel, j'étais gentil avec ma femme, j'ai essayé de bien élever mes enfants. Et la Bible, elle nous arrête et elle dit, attends, c'est pas comme ça. C'est comme ce footballeur, il y a des années de cela, dans un match célèbre, il a couru avec le ballon les 100 mètres les plus rapides peut-être de l'histoire. Qu'est-ce qu'il a couru vite, dites. Et les autres lui couraient derrière, bien sûr, parce que c'était un football américain. C'est un peu comme le rugby, là, hein. Je n'ai pas trop compris leur règle, mais enfin, je les vois courir, en tout cas. Le problème, c'est qu'il s'était trompé de but. C'est terrible, ça, hein. Un homme, sincérité, il voulait que son équipe gagne, mais il avait attrapé le ballon. Peut-être on a essayé de lui arracher les oreilles, comme ça arrive, hein, en France, hein, avec nos fameux gaillards, là. Vous avez vu ces gaillards, là, ce rugbyman, là. Moi, je ne voudrais pas tomber entre leurs mains, hein. Moi, je suis un gringalet. Oh. Et il s'est mis à courir, et les autres lui couraient derrière. Mais ce n'était pas vers le bon but. Ne vous dites pas qu'ils n'étaient pas sincères, hein. C'est comme moi quand je me suis trompé de train. Quand j'étais militaire, j'avais une 36 heures. 36 heures. Et je devais aller de Lyon à Paris, et de Paris à Meaux, dans la Seine-et-Marne. 36 heures, on est contre, rien que déjà avec le train. Les TGV, ça n'existait pas à l'époque. C'était ces trains, enfin, tortillards. J'allais voir ma maman. J'avais 20 ans. On est compte. T'es pas encore marié, bien sûr. Sinon, c'est ma femme que j'aurais été voir. Et mon ami, je monte dans le train. Manque de peau, il n'allait pas à Paris, il allait à Marseille. C'est terrible de se réveiller tout à coup et de dire, mais on dirait qu'il s'en va dans la mauvaise direction. Vous croyez qu'il partait dans la mauvaise direction? Mais non, c'était le train de Marseille. C'était moi qui m'étais trompé. C'est pas le train qui allait dans la mauvaise direction, c'est moi. Il y a quelques jours, là, je vous ai raconté l'histoire de ce jockey, ce propriétaire de cheval, qui avait embauché un jockey professionnel. Et alors, il avait un autre copain qui aussi avait un cheval. Alors, c'était là, un petit peu la guéguerre entre eux, là. Tu vas gagner, non, c'est moi qui vais gagner. Et l'autre, il avait embauché un jockey professionnel. On pensait bien, il comptait sur lui pour gagner les courses. Et voilà que le grand jour de la course arrive, et ils sont partis, pas les deux jockeys avec les autres, bien sûr. Mais c'est surtout ces deux-là qui nous intéressent, parce qu'ils ont couru, ils ont couru. Et puis, il fallait créer, là, les barrières. Et à un moment donné, les chevaux n'en pouvaient plus, certainement. Et les deux, ces deux fameux jockeys, leurs chevaux sont tombés, et eux sont tombés aussi du cheval. L'autre, il est resté par terre. Mais le jockey professionnel, avec la conscience professionnelle, il a repris, n'est-ce pas, le cheval, il est remonté, puis il est parti à fond. Et il a gagné la course. Quand il est allé à l'écurie, il a vu le propriétaire du cheval. Il n'était pas content, le propriétaire du cheval. Il était rouge de colère. Alors le jockey dit, mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai gagné la course ou pas? Il dit, oui, vous avez gagné la course, mais vous vous êtes trompé de cheval. C'est terrible, voyez-vous. Ça vous fait peut-être un petit peu sourire. Mais quand vous arrivez à dire à quelqu'un, surtout qui a de l'âge, et que toute sa vie s'est confiée dans une religion, et vous arrivez et vous lui dites, ne vous confiez pas dans votre propre justice, ne vous confiez pas dans vos propres mérites, nous ne sommes pas en train de dire que ce que vous faites c'est mal. Parce que quand on parle de justice, on parle de bonnes choses en général, hein. Non, ne vous confiez pas dans vos propres mérites, vous êtes en train de courir dans la mauvaise direction. C'est pas très agréable à entendre, hein. Parce que tout à coup, il va vous dire, mais alors, comment on est sauvé? Mais alors, ce que je fais, c'est pas bon. Non, on n'est pas en train de dire que ce que tu fais, c'est pas bon. Si du moins. Parce que certains, ils croient que c'est bien ce qu'ils font, et ils sont en train de voler les gens, hein. Et ils disent, ça fait rien. Après tout le monde le fait, hein. Non, nous sommes en train de dire que c'est inadéquat. Vous ne pouvez pas, grâce à cela, aller au paradis. Nous ne sommes pas en train de dire que si vous essayez de faire le bien, d'aimer votre mari, d'aimer vos enfants, votre femme, d'aimer la société, c'est mal, au contraire. Vous voyez, je ne parle pas d'adultère, de voleur, de bandit, de grand criminel. En supposant que vous essayez de tout votre cœur de faire le bien pour un jour entrer au ciel, c'est bien ce que vous faites. Mais ce n'est pas comme ça. Grâce à cela, on ira au paradis. L'apôtre Saint-Pierre a dit quelque chose dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Eh bien ça, si c'est pas clair, mes amis, vous voulez entendre le message de l'apôtre Pierre? Il l'a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Et il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, ça veut dire personne ne vient au Père que par moi. C'est exclusif. Donc Dieu vous propose aujourd'hui le choix. C'est un choix que vous avez devant vous. Continuez avec votre propre justice ou la justice de Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, moi, je veux être trouvé, non avec ma propre justice, celle qui vient de mes œuvres, mais être trouvé avec la justice qui vient de Christ et qui nous est donnée par la foi. Que Dieu vous bénisse. Mon Père Céleste, je te prie pour nos amis cet après-midi, parce que là, c'est la balance. Il s'agit de pencher d'un côté ou de l'autre. Allons-nous continuer à nous confier dans notre vêtement, notre justice, tout en disant, mais quand même, après tout, c'est du bien que je fais. Pourquoi Dieu n'en tiendrait pas compte? C'est pas que Dieu n'en tient pas compte, c'est que pour entrer au ciel, il faut la perfection. Et la perfection, nous, humains, nous ne pouvons pas l'acquérir par nos propres efforts. Il faut le sacrifice de Jésus. Ton sang précieux, je te prie pour nos amis, que vraiment tu triomphes maintenant et qu'ils prennent la bonne décision. Je te les recommande de toute mon âme. Oh, qu'ils décident aujourd'hui de dire, mais j'ai compris, Dieu veut me revêtir de la parfaite justice de Christ, avec celle-là j'entrerai au paradis. Oui, bénis ces amis, encourage-les, je te prie, dans le nom de Jésus. Amen.